Bonsoir à tous, bonjour à tous, ça dépend, à quelle heure vous écoutez cette émission. Nous revenons à nouveau pour un nouvel épisode de Tout et de Rien, l'émission qui vous parle de tout, mais surtout, bien évidemment, de rien. Aujourd'hui, on est le 14-09-2020, ça vous intéresse peut-être pas forcément d'avoir la date, mais par contre, ce qui vous intéressera, c'est la présence de nombreux chroniqueurs, waouh, c'est difficile. Notamment la personne qui vient de rire à l'instant, c'est Nicolas. Comment ça va, Nicolas ?
Eh bien, ça va très bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui.
Bah oui, merci Nico, moi aussi je suis ravi. Pour les auditeurs, ça fait pas beaucoup de temps d'absence qu'ils t'ont entendu. Mais par contre, nous en fait, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu parce que, encore une fois, je l'ai déjà répété dans l'épisode d'avant, mais on a arrêté les enregistrements, j'arrive plus à parler, pendant l'été et on les recommence maintenant. Ce qui nous permet de retrouver de très vieux amis comme Jules et Mika. Comment est-ce que vous allez, les gars ?
Bah ça va, nickel. C'est toujours plaisir d'être là.
Nickel, super. Et toi, Mika, t'es un véritable revenant, si je puis dire, parce que la dernière fois qu'on t'a entendu, c'était dans l'épisode 10.
Eh oui, bonjour à tous. Bah, ça fait plaisir de revenir.
Mais oui, mais ça nous fait plaisir aussi que tu reviennes. Je le dis aussi dans le chat, on a la présence de Alexandre qui nous écoute et de Romain qui se moque de nous parce que j'ai dit crottineur et pas chroniqueur tout à l'heure. Merci Romain d'ailleurs. Bref, soit dit en passant, cette introduction est déjà beaucoup trop longue comme d'habitude, mais vous avez l'habitude encore une fois. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement dans le vif du sujet. Je crois, Mika, je pense d'ailleurs que c'est à toi de commencer puisque c'est toi qui es le plus ancien finalement qu'on n'a pas entendu depuis longtemps en fait. Vas-y, à toi, je te laisse la parole.
Ah, ça fait grand plaisir, les privilèges de l'âge qui me sont octroyés dans cette émission.
C'est normal, hein, ça me semble logique.
Un véritable plaisir en tout cas de revenir. Mmh. Et pour mon retour triomphant, j'ai décidé de parler de quelque chose qui, pour changer, ben, j'adore. Hein, vite pensé, je pense que vous commencez à comprendre que je parle rarement des choses que j'aime pas.
Bah, c'est normal.
Si je pense, en général.
Non, tu me diras, Nico a un jour parlé de complotisme en archéologie, je pense que c'est pas forcément quelque chose que tu apprécies spécialement.
Ah ouais, c'est vrai.
Et c'est pas facile de parler de trucs qu'on aime pas, ouais.
Mais c'est moins évident. Alors du coup, bah, on va plutôt rester dans la zone de confort, et donc on va parler d'un manga, et d'un manga de vieux de la vieille, puisque mine de rien, c'est un manga qui est assez ancien. Pour ceux qui le connaissent et le découvrent aujourd'hui, c'est un manga qui a déjà 13 ans. Je vais donc aujourd'hui vous parler d'un manga qui s'est fait connaître sur une plateforme qu'on appelle Big N dans le milieu, donc Netflix bien entendu, qui s'est fait connaître sous le nom de Midnight Dinner Tokyo Stories, avec mon plus bel accent anglais. En langue de Molière, on appelle ça la cantine de minuit. Alors la cantine de minuit, c'est un manga seinen de Yaro Abe, pré-publié depuis octobre 2006, donc vous voyez que ça commence à dater, au pays du soleil levant, et depuis février 2017, donc il aura fallu attendre 11 ans pour les avoir dans nos rayonnages, en librairie en France, et publié chez Les Arts Noirs. Donc c'est un manga qui est toujours en cours, avec déjà 19 tomes parus au Japon, contre 7 seulement en France, le 8e doit sortir le mois prochain, à l'heure où vous écoutez ces lignes. Et donc voilà, on a quand même un sacré retard, et donc je suis complètement tombé dedans il y a quelques mois déjà, et j'ai très très hâte de lire la suite, malgré le fait que ce ne soit pas un roman fleuve, mais de quoi ça parle exactement ? Là, c'est ce que je vais vous raconter.
Mais oui, dis-nous tout.
Eh oui, parce que en fait, c'est une histoire très simple. On suit tout simplement l'histoire d'un restaurateur japonais à Tokyo et de ses clients. La plupart, ce sont des habitués ou tout simplement des gens de passage. C'est ce qu'on appelle un izakaya, donc un restaurant de quartier dans notre belle langue, et qui a la particularité de ne servir que de la soupe miso au porc, de la bière et du chouchou, un petit alcool japonais. Voilà, donc un seul plat finalement sur la carte et deux alcools. Ça pourrait vraiment passer pour un vieux boui-boui. Mais il y a aussi une autre petite particularité, c'est que le patron a la capacité de vous servir ce que vous désirez, à partir du moment où il a les produits, ou si vous les lui fournissez. En fait, il cuisine ce que vous voulez, et le nom du manga, donc Cantine de minuit, vient tout simplement de sa dernière petite particularité, c'est que c'est une cantine, un restaurant, qui est ouvert de minuit à 7h du matin. Voilà, donc tout simplement, donc une cantine de nuit, un restaurant de nuit, ouvert pour les gens qui travaillent donc de nuit ou tôt le matin. Donc on va apprendre à découvrir les personnages qui vont et viennent dans ce restaurant sous le regard un peu, narratoresque, je sais pas si ce mot existe, mais j'ai décidé de l'inventer, du tenancier, donc du patron, qui, à mon souvenir, n'a pas de nom.
D'accord.
Alors, pourquoi cette œuvre, je l'apprécie autant, et quelle est sa particularité ? Alors, c'est un manga de cuisine, donc du coup, on voit plein de petits plats, on voit leur élaboration minutieuse, un petit peu comme dans Le Petit Chef, ou dans Food Wars, pas du tout. Y a pas de détails là-dessus. C'est une tranche de vie d'un restaurateur au cœur d'une histoire et d'un scénario incroyable. Il faut quand même savoir que le restaurateur, il a une balafre, il croit souvent des yakuza, qu'il est impliqué dans des histoires incroyables. Pas du tout. Non, pas du tout. En fait, c'est juste des petites histoires entremêlant des personnages qui sont peu ou pas du tout développés, une succession de petites histoires, la plupart du temps sans lien les unes avec les autres, si ce n'est que l'action se déroule toujours au restaurant, ou prend place au moins une fois au restaurant. Alors du coup, quel est l'intérêt à lire La Cantine de Minuit ? Parce que bon, on va pas se mentir, c'est pas très bien dessiné, c'est même assez minimaliste, il n'y a pas de fil rouge au scénario, puisque les personnages vont et viennent, il y a certains personnages qu'on ne voit pas pendant plusieurs tomes et qui finissent par revenir, les plats ne sont pas au centre de l'histoire, c'est totalement l'inverse d'un manga de cuisine finalement, et donc du coup, qu'est-ce qui fait la force de ce manga? Ben, la réponse finalement tient en un seul mot, l'émotion. Chaque histoire, plutôt que de raconter et de développer le background d'un personnage en profondeur, va simplement transmettre l'émotion de ce personnage à un instant T, le temps qu'on nous narre son histoire. Certaines histoires nous marquent plus que les autres, mais toutes ont leur petit piment, leur petit coup de reviens-y. Et alors, le manga ne s'embarrasse absolument pas avec des personnages lisses et propres sur eux, comme on pourrait le trouver dans certains mangas neketsu beaucoup plus classiques, avec des schémas très très archétypés. Non, là, vraiment, on a des personnages très très hauts en couleur. Ça va aller des gens en surpoids, de dépressifs, des yakuza, des transsexuels, des stripteaseuses, tous ceux qui vont du monde de la nuit, au lève-tôt, au couche-tard. Et du coup, ça va faire en sorte que notre empathie va être renforcée face à ces personnes qui doivent, dans leur vie de tous les jours, lutter au quotidien, mais en plus surmonter les galères que la vie leur met sur leur route. Voilà, donc vous avez par exemple un personnage très très drôle qui me fait beaucoup rire, qui est un transsexuel qui en fait est qui est patron d'un sop, ce qu'on appelle un sop. Donc au Japon, c'est des endroits où en fait vous allez louer une prostituée qui va vous faire prendre une douche. Voilà, elle va vous accompagner prendre votre mal, c'est elle qui va vous laver et tout. Et il est devenu, en fréquentant le restaurant, meilleur pote avec un yakuza. Voilà. Et je trouve ça extrêmement drôle parce que finalement c'est pas leur profession qui va définir ces personnes, mais c'est leur mentalité. Ils sont devenus potes tout simplement parce que les deux aiment manger des knackis. Tout simplement. Voilà. Ça peut paraître très con, mais moi ça m'a beaucoup fait rire et en même temps ça rend touchant cette approche des personnages qui du coup ne sont plus des salariés, qui ne sont plus des PDG, qui ne sont plus des artistes maudits, voilà, ce sont tout simplement des gens,
c'est des humains,
qui viennent manger, voilà, des êtres humains tout simplement, qui viennent se détendre, qui viennent rire, qui viennent pleurer dans ce restaurant, et c'est à ça du coup que ça va nous aider à nous identifier auprès de ces personnages qui sont pourtant totalement différents de nos vies d'occidentaux, même pour les Japonais, c'est pas des choses quotidiennes que de croiser des yakuza ou des transsexuels ou d'aller tout simplement chez les dames de petite vertu. Mais ça rend ces histoires très très touchantes, émotionnellement très fortes. Il est même pas rare de verser une petite goutte à la fin d'une petite histoire, petite larme qui va poindre côté de votre œil lorsque vous allez apprendre la mort d'une personne que vous ne connaissez absolument pas, qui va juste être là le temps d'une histoire, mais qui va vous émouvoir. Alors, avis personnel, lisez La Cantine de Minuit. N'hésitez pas à vous plonger également dans la série Netflix que j'ai découvert très récemment.
Ouais.
C'est très très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est un rythme très très lent, vraiment posé sur les faciès et les émotions des personnages, exactement comme dans le manga. C'est juste que le rythme est très lent, très posé. C'est quelque chose où il faut s'habituer. Mais pareil, c'est des petites tranches de vie. Ça se déguste un petit peu comme une petite Madeleine de Proust. Donc lisez-le ou regardez-le, vous ne le regretterez pas, vous allez passer un très bon moment. Vous avez remarqué que j'ai fait court.
Bah ouais, ouais, c'est vachement ouais. Étonné parce que la dernière fois t'as fait 45 minutes sur Avatar, donc je suis la vache. Oui, bah merci.
Merci.
On veut la suite, la deuxième partie.
Grave. Ah non, voilà, là pour le coup,
c'est le teaser là.
Ah bah, c'est bah écoute, ouais, au moins t'en dis suffisamment et là on a envie d'aller voir. Par contre, moi j'ai peut-être mal écouté au début, mais la série Netflix, c'est une série live du coup ou c'est une animation?
C'est une série live. Une série live, effectivement, d'accord. Je l'ai pas précisé, mais c'est une série live, pareil, qui est assez ancienne, je crois qu'elle a quelques années maintenant.
Ouais, parce que j'ai cherché sur internet et j'ai rien trouvé en animation, donc je me posais la question.
Non, c'est pas une série animée, effectivement, c'est une série live, c'est pour ça que je dis que c'est quand même très particulier, parce que ça aurait pu se présenter comme un Maison Ikkoku ou quelque chose comme ça, un peu déjanté, avec des personnages très caricaturaux. Sauf que là, du coup, c'est des vraies personnes, du coup, on n'a pas du tout envie de se foutre de leur gueule, parce que c'est des gens qui vivent avec leur tronche du quotidien, quoi, je veux dire, même si c'est des acteurs, c'est des gens qui ont cette tête-là dans la vraie vie, et c'est si vous lisez le manga, vous verrez qu'il y a quand même des têtes assez improbables. Et ben, ils ont réussi à retranscrire ça sur l'animation. Sur la série live. Et du coup, voilà, c'est pas du tout sur le fait qu'il y ait des gens avec des gueules complètement abîmées par la vie ou pour tout simplement, voilà, il y a des gens. Pas de chance, hein. Et voilà, tu nais avec une dent en trop, une dent en moins, avec le visage pas forcément très avenant. Et pourtant, bah voilà, il y a quand même des histoires d'amour entre des personnes qui s'attirent l'une envers l'autre pour des raisons toutes banales, en somme toute. Par exemple, deux personnes qui adorent faire du tricot, une qui a 20 ans de moins que l'autre, bah tant pis, c'est pas grave, ils vont finir ensemble. On ne connaîtra rien d'autre de leur vie, on saura juste que leur passage dans ce restaurant les a fait se rencontrer. Et c'est tout ce qui compte.
Ouais, ça a l'air très touchant en fait tout ce que tu nous racontes ici. Franchement, j'irai jeter un coup d'œil parce que la dernière fois que j'ai suivi l'un de vos conseils, c'était Romain pour Dark Crystal et je l'ai absolument pas regretté du tout. Donc je pense que je vais suivre ton conseil, Mika. J'avais justement besoin d'une nouvelle série à regarder. Donc merci.
Ah, par contre, je te préviens, c'est quand même pour public averti. Hein. C'est particulier quoi. Voilà.
Oui, mais c'est pas. Ça sera pas non plus. Enfin, je sais pas. Horrible quoi. Au pire si... Enfin, je sais pas, non, si c'est horrible...
Il faut être prévenu. Non, c'est comme je te dis, c'est très lent.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est très lent.
Au pire, c'est...
C'est absolument pas une série...
Au pire, ça peut être chiant, mais ça va pas être dégueulasse, quoi.
Non, voilà. non, mais ça va être très, très exagéré. C'est presque du théâtre, en fait. C'est une série qui fait presque penser à du théâtre.
C'est une sitcom, en fait. C'est l'équivalent d'une série qui fait du théâtre, c'est un peu...
Non, ce sera pas du tout comme une sitcom. Ce sera vraiment plus dans... Moi, je vois vraiment plus ça comme des scénettes de théâtre, en fait.
Ouais, une petite scénette dramatique de théâtre, d'accord.
Ouais, c'est ça, ouais. Où vraiment, on va marquer des temps de pause, il va y avoir des temps où les personnages se regardent, des emphases, des moments où vraiment il y a de l'exagération au possible, ou des moments où c'est complètement l'inverse.
Ouais.
Donc voilà, c'est très particulier, mais moi j'aime bien, ça passe le temps, et puis c'est plus sympa à écouter en fond.
Bah écoute, merci Mika, ça tombe bien que tu termines là-dessus en disant que c'est quelque chose de très particulier et de quelque chose d'un peu étrange et peut-être possiblement un petit peu chiant parce que justement j'ai une idée mais que je pense que je vais regretter dans peu de temps.
On va voir.
Et est-ce que Nicolas, tu te souviens du jeu de la langue qu'on a fait ensemble?
Le jeu de la langue, oui.
Où t'as perdu avec Maxime, c'était il y a très très longtemps.
Oui, l'humiliation avec Maxime.
Ouais, voilà, c'est ça, l'humiliation avec Maxime. Et ben du coup, tu vas potentiellement avoir ta revanche aujourd'hui parce que c'est moi qui vais m'auto-humilier aujourd'hui avec une deuxième version du jeu de la langue. Et cette idée, elle m'est venue quand on a... je crois que vous étiez, personne n'était là, quand on a chanté La Reine des Neiges avec Benoît lors de l'épisode 16. Et je me suis dit, oui, on a fait ça, allez le voir cet épisode, il est incroyable. Et je me suis dit, bon sang, mais en fait, c'était vachement cool de chanter. Et j'ai eu l'idée de mixer le chant avec le jeu de la langue. Donc peut-être que vous voyez où je veux en venir. L'idée, c'est que là, ce qui va se passer dans pas longtemps, c'est que je vais vous chanter des chansons que vous connaissez, je pense, que j'ai pris des classiques, mais traduites en français.
Oh,
d'accord.
Et il va falloir que vous trouviez.
D'accord.
Voilà.
Je crois que c'est très nul le jeu.
Mais ça, c'est original.
C'est du blind test, mais traduit.
je vois Romain qui dit d'où Jésus dans le chat.
Ouais.
Donc voilà, c'est le moment un peu chelou.
Mais Marc, si t'as pas envie de le faire, le fais pas.
Ah non, mais si, je vais le faire. C'est un véritable challenge. Attends, j'ai travaillé ça tout à l'heure.
Sur l'épaule virtuelle.
Moi, j'ai la musique. Je vais avoir la musique pour m'aider. Vous l'aurez pas. Peut-être que je la rajouterai après au montage derrière. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je vous ai prévu juste 4 titres parce qu'il faut pas non plus déconner. Marc n'a pas de limite. En fait, c'est vocalise. Alors, ce qui est rigolo en plus, c'est que.
Je suis sûr que le mec, il a tout écrit sur de la feuille de papier à musique avec les notes et tout pour savoir où est-ce qu'il doit tenir la note et tout.
Du coup, votre but à vous, ça va être de trouver, eh bien, quelle est cette chanson et si possible, d'essayer de me dire le titre en français, du coup, de cette chanson, tant qu'à faire,
okay.
La traduction. Donc voilà, dites-moi top quand vous y êtes et puis sinon, on ira au bout de pas de la chanson. Généralement, j'ai pris un couplet et un refrain, voilà, uniquement. Faut pas non plus trop...
Oui, et si on aime beaucoup, on peut te laisser continuer.
Oui, peut-être, je ne sais pas.
On va attendre d'avoir fait tous les refrains et tous les couplets.
Alors, bon, et c'est parti.
Tu vois le visage sur l'écran de télé, venir à toi chaque dimanche, voir le visage sur le panneau d'affichage, cet homme c'est moi. Sur la couverture du magazine, il n'y a aucune raison pourquoi je souris. Vous achetez un morceau de paradis, vous achetez un morceau de moi. J'obtiendrai tout ce que tu voudras, j'obtiendrai tout ce dont tu as besoin.
tu ne crois pas en après, crois juste en moi, car Jésus il me connaît et il sait que j'ai raison. J'ai parlé à Jésus toute ma vie. Bien sûr il me connaît et il sait que j'ai raison. Et il me dit tout ira bien.
Je crois que Romain a marqué un point.
Je crois qu'on va la trouver.
C'est vrai.
Collins, ouais, bien joué Romain. Bien joué. Yes. Waouh. Alors moi j'ai la musique, donc, donc pour vous ça a dû être assez atroce, mais.
Bah, au début c'était un peu perturbant, mais après c'était drôle en fait. Moi, j'ai bien rigolé. Enfin, je me suis empêché de rire justement.
Voilà.
Et moi c'est pas, moi j'ai reconnu l'air.
T'as reconnu l'air, vous l'avez. Ah, bah merci Romain d'avoir trouvé Sting. Félicitations, je t'applaudis. Enfin Sting, Phil Collins, pardon, j'ai mis Sting en premier, mais oui, c'est pas Sting, c'est Phil Collins. C'est plus exactement Genesis, et du coup, le titre, c'est Jésus, il me connaît. Donc, Jesus, he knows me. Vous la connaissiez, cette chanson, ou pas, du coup?
Ouais, je sais, probablement.
Pas moi.
peut-être pas cette version-là, mais...
Mais en vrai, oui, avec l'air, tout ça, c'est vrai que les paroles, je les connaissais pas, mais grâce à toi, maintenant.
Ouais, avec l'air, c'est un peu compliqué, en vrai, du coup, j'ai le son à bloc pour essayer de pouvoir chanter convenablement.
De toute façon, c'est toujours compliqué, les versions live.
Bah, oui, complètement.
C'était le concert de quelle année,
Alors, c'était pas spécialement un concert, j'ai vraiment pris des trucs lyriques sur YouTube, que je traduis avec mon petit truc de traduction à côté.
Trop bien.
À chaque fois, il y aura un petit temps d'attente, le temps d'avoir le début de la chanson à chaque fois.
Ah, l'introduction.
C'est ça, toujours l'introduction. Vois la pierre placée dans tes yeux. Vois l'épine plantée dans ton flanc.
Je... C'est YouTube.
T'attends à bien jouer. Yes.
Oui,
avec ou sans toi, waouh, waouh. Avec ou sans toi, elle est très facile celle-là. Bah, bien joué, Nico, tu as un point. Félicitations. Oui, merci. Parce que du coup, je me dis, tant qu'à faire, autant compter les points. Romain, tu as un. Et Nico, tu as un aussi. Sachant qu'il reste plus que deux chansons, ça va être relativement simple après pour la suite. En fait, en vrai, j'ai eu l'idée de ce jeu en écoutant cette chanson-là. Parce qu'elle est tellement. Je sais pas, simple à traduire, que des fois je l'ai reconnu ça, je me suis dit ça pourrait être une idée, mais du coup je pense que c'est la seule qui est vraiment bien adaptable à mettre en français, en fait, parce que là la suivante ça va pas être la même chose, enfin surtout la suivante ça va être la dernière qui va être en je sais pas, pareil, il y a toujours un moment d'intro. Sans parler, je ne sais pas quoi dire, mais je le dirai quand même. Aujourd'hui est une nouvelle occasion de te trouver. Toi qui gardes tes distances.
George Michael?
Pas George Wham. Michael, non.
C'est pas Queen?
Non, c'est pas Queen. Je crois que Jules, tu l'as, je pense.
Je l'ai, mais j'arriverai jamais à retrouver le nom.
Impossible.
Le nom. Ah non, je suis beaucoup trop une brêle pour ce genre de truc.
On va.
Attends, vas-y.
Continue,
Marc. Chante.
Prends sur moi. Alors, est-ce que vous l'avez?
Oh, tu fais pas le tout.
Ouais, Mikala.
C'est Take On Me de Aha.
Ah, c'est Aha.
Ha, ha, ha. Bien joué, Alex, qui l'a dit dans les commentaires en dessous. Je n'ai plus de voix, je ne peux pas chanter. Et la dernière, ça va être la plus difficile. J'accorde le point à Jules quand même parce que t'avais l'air, donc ça me semble juste.
C'est gentil.
Non mais ça me semble juste.
Il me semblait que Mika l'avait dit aussi.
Tu l'as dit, Mika, t'es connu.
Jules l'a fredonné avant moi.
Ah
ok.
C'est parce que j'ai reconnu Jules le fredonné que
tu peux.
Travail d'équipe, ça fout.
Et la dernière, ça va être Tandax. Je vais trouver rapidement, ouais, je pense.
Ah,
Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je regarde ma vie et je réalise qu'il n'en reste Eminem. Rien. Oui.
Voilà, tu après je pourrais. Slim Shady.
Non.
Bon, c'est Eminem, mais je pourrais c'est pas dire laquelle. Eminem. Quoi, c'est pas Eminem, t'as dit oui.
Non, non, mais j'ai dit oui parce que je vous entends pas, j'ai la musique. Alex a trouvé.
Oh là là, quel boss, putain.
Alex a trouvé, c'était Gangsta Paradise.
Yo, Gangsta Paradise.
Ah, bien joué. Oui, oui.
Il est fort, il est fort.
Eh bah, ben, il est fort, Alex. C'est marrant, dès qu'on parle de musique, tout d'un coup, Alex, il est dans les parages. C'est fou. Ça, c'est incroyable. Y aurait-il une coïncidence? Je ne sais pas. Bien joué, Alex, du coup. Tu gagnes techniquement ce jeu, alors que tu n'es même pas présent sur le plateau. C'est incroyable.
GG.
Et du coup maintenant ce que je propose, attends, Alex est en train d'écrire, c'est le talent, dit-il. Eh bien, bien joué, Alex. Bien joué.
On aime cet état d'esprit.
Donc voilà, c'était le jeu de la langue version 2. Peut-être y aura-t-il une version 3 sur un autre thème, je ne sais pas, peut-être jamais, ça dépendra de comment je me sens en m'auto-écoutant quand je ferai le montage. Du coup, ce que je vous propose, c'est de passer directement à la suite après ce petit interlude un peu étrange. Du coup, je pense qu'on peut parler de choses qui s'avortent un peu comme mon talent là en ce moment à l'heure actuelle.
Vas-y. On s'est bien amusé, hein, mais on va parler de trucs moins cool. Hein. Alors, bah du coup, moi, je voulais vraiment vous parler d'un sujet. Bon, c'est l'été, il fait beau, on s'amuse, on chill, et vu que on peut pas trop sortir hein, parce qu'il y a un peu une pandémie dehors, on regarde pas mal de séries.
Oui.
Du coup, on va parler de séries aujourd'hui. Mais on va ajouter un peu une ombre à ce tableau estival, puisque du coup on va parler de séries inachevées, donc annulées trop tôt, ou alors écourtées, et souvent c'est des séries qui sont super cool, donc c'est comment bien kiffer une œuvre, mais finir quand même terriblement frustré à la fin. C'est pas une chronique qui va se vouloir exhaustive, hein, ni présenter des séries dans un ordre particulier, ouais. Juste j'avais envie de vous parler de trois séries qui étaient annulées trop tôt. Et que j'aime bien, oui.
Je remarque que t'aimes bien te faire du mal en ce moment sur tes chroniques. Après le complot, tu parles des choses qui disparaissent.
Mais ouais, je crois que ouais, c'est une nouvelle, une nouvelle fascination pour ce qui est pour le mal que je me fais.
Je te laisse continuer.
Je sais pas pourquoi tu mens comme ça. C'est depuis de tout et de rien. Avant, j'étais pas comme ça, j'étais un mec joyeux. Mais bon, en tout cas, voilà, je vais vous parler de trois séries qui valent vraiment le coup qu'on s'y attarde. Et aussi, j'avais une idée quand même pour vous apporter un petit cadeau de mentionner des alternatives, donc moins frustrantes, de vraies séries finies. Comme ça, si vous voulez passer un bon été sans la frustration, vous pouvez quand même regarder des séries
cool.
qui ont une vraie fin. Donc on va commencer avec les années 2000 et avec une série qui s'appelle Dark Angel qui a été annulée après 2 saisons à cause de son coût de production qui devenait vraiment beaucoup trop élevé. Donc c'est une série qui est diffusée à la base sur la chaîne Fox et en fait elle a souhaité annuler Dark Angel pour diffuser une autre série qui s'appelle Firefly, hein. Je pense que vous connaissez peut-être un petit peu parce que c'est aussi une série dont on va reparler dans ce top 3. Donc Dark Angel c'est une série de science-fiction anticipation créée par James Cameron. Ça se passe dans un univers dystopique et cyberpunk. Donc l'action elle se passe dans le futur de 2019 aux États-Unis et qui est devenu un pays du tiers-monde à cause d'une explosion nucléaire qui a été provoquée par des terroristes 10 années auparavant, ce qui aboutit en fait à une impulsion électromagnétique qui a détruit l'ensemble des systèmes informatiques. Donc tout ça, ça a renvoyé la technologie du pays des années en arrière et ça a mis au pouvoir un gouvernement un peu mafieux et un peu corrompu. Dans cette série, on va suivre l'histoire de Max, qui est le personnage principal, qui est incarné par Jessica Alba. Donc ça va être l'héroïne de la série. Et en fait, son passé va être entouré de mystères, puisqu'en fait, elle est issue d'un programme militaire secret qui vise à créer des super soldats manipulés génétiquement pour qu'ils aient vraiment des capacités hors du commun. Donc en fait, elle s'est enfuie quand elle était adolescente de ce programme avec d'autres enfants soldats modifiés. Et depuis, en fait, elle est à la recherche de ses anciens compagnons et surtout les responsables du programme essaient aussi de l'arrêter. Donc du coup, en fait, elle va mener une double vie. Le jour, elle est coursière à vélo, ce qui est quand même le truc le plus incroyablement visionnaire qui est dans cette série. Et le jour, en fait, c'est une cambrioleuse, en fait, elle a cambriolé des riches pour pouvoir se payer un détective privé qui va l'aider à retrouver les anciens fugitifs comme elle. Parallèlement à ça, il y a un hacker qui est nommé le Veilleur, qui pirate régulièrement les télévisions des particuliers et même de tout le pays pour diffuser des messages pour dénoncer le pouvoir corrompu qui est en place et du gouvernement américain. Comme ça aussi, il met en lumière les exactions et les injustices qui sont commises par les autorités. Dans l'épisode pilote, il y a Max qui cambriole sans le savoir la maison du Veilleur et elle va se retrouver face à un homme qui s'appelle Logan, qui est un homme quand même assez riche. Et tous les deux, en fait, ils vont très vite s'entendre et s'entraider. Donc Logan, il va l'aider à retrouver ses compagnons génétiquement modifiés. Et Max, en fait, elle va aider Logan en mettant ses capacités à profit pour combattre les ennemis de Logan et lutter contre le gouvernement. Donc la série, elle va aborder plusieurs sujets qui sont en lien avec la science-fiction et le genre cyberpunk, notamment des questions de société, de rapport à la liberté, de politique, mais aussi de progrès de la science, de l'exploitation des hommes et de la génétique et de la déshumanisation qu'elle peut apporter, notamment quand c'est utilisé à des fins militaires ou dans des régimes autoritaires. Tout ça, en fait, ça rend la série quand même plutôt riche et son univers est assez intéressant. Et bon, il y a 42 épisodes en tout, et en 42 épisodes, on est très loin d'avoir fait le tour de tout ça. Et surtout, en fait, on va terminer sur une fin ouverte. Donc il y a beaucoup, beaucoup de questions qui sont laissées sans réponse. Et surtout, depuis le début, en fait, on a affaire à des personnages qui sont très attachants, à des intrigues qui sont assez profondes et développées. Et malheureusement, on est obligé de laisser tout ça de côté. Mais bon, on aura passé quand même un bon moment aux côtés de Max et de sa bande de révolutionnaires, des hackers et des êtres génétiquement modifiés. Donc la Fox, elle va déprogrammer cette série parce qu'elle devenait trop coûteuse pour laisser la place à Firefly. Comme je le disais au début, Firefly, ça a été annulé au bout de 15 épisodes seulement. Donc autant dire que les fans de Dark Angel ont été vraiment dégoûtés de ce truc. Donc la série, elle a quand même eu droit à une suite, mais sous la forme de roman. Donc, moi, je les ai pas lus. Ça constitue un petit lot de consolation pour vraiment, quoi, si on apprécie tout ça. Si vous aimez le cyberpunk, un genre qui court pas vraiment les rues, hein, en termes de série télé, et que vous êtes fan de James Cameron, ou alors que vous êtes juste curieux, ben, en fait, je peux que vous recommander, en fait, cette série. Si vous la trouvez, par exemple, d'occasion en DVD ou autre, je crois pas l'avoir vue ni sur Netflix, ni sur Amazon. Ouais. À mon avis, elle est pas encore dispo, peut-être qu'un jour elle fera son apparition. Donc il y a certains effets qui ont un petit peu mal vieilli, et les épisodes sont pas tous égaux, mais dans l'ensemble, elle mérite vraiment clairement qu'on s'y attarde, tant elle est originale, en fait, même pour son époque et pour les sujets qu'elle aborde. Pour l'alternative, un peu sans la frustration, pour garder toujours cette ambiance d'été bien chill, je peux vous conseiller Orphan Black, qui est une série de Netflix. Je sais pas si vous l'avez vue.
Non, ni Dark Angel, ni Orphan Black, mais j'ai entendu parler de Orphan. Attends, je vais regarder pour être sûr que je me gourre pas. Puisque visiblement, je me suis gouré, Romain, puisque dans un épisode, j'ai parlé de Farscape, alors qu'il fallait que je parle de Falling, je ne sais plus quoi, Falling Sky. Voilà. Je ne sais plus, je vérifie mes sources maintenant. Orphan Black. Ah oui, d'accord, c'est ça, ok. Ça marche.
Ouais, c'est une série, je sais pas si vous voyez, mais bon, sur Netflix, on peut la choper facilement. Donc c'est un peu dans le même thème, sauf que cette fois on a affaire à une série achevée. On est moins dans le côté post-apo et moins dans l'anticipation, mais ça va parler toujours de manipulation génétique. On va avoir quelques liens aussi avec les univers cyberpunk, et on a affaire aussi à une héroïne qui est badass. Donc c'est une série qui se regarde très facilement, mais qui conserve quand même une certaine profondeur, et il y a une super mise en scène, notamment grâce à son actrice qui va vraiment incarner un rôle principal très intéressant. Donc je vais pas en dire plus, je vous laisserai découvrir tout ça.
Par curiosité, il y en a qui les ont vus du coup, ces deux séries parmi vous ?
Non.
Non, pas du tout.
Non, pas du tout.
Aucune, ouais.
D'accord. Ah, il y a Romain qui demande où est-ce qu'on retrouve Orphan Black ? Sur Netflix du coup ?
Ah bien, sur Netflix, tout à fait. J'essaie de vous donner des alternatives faciles d'accès. Oh, quoi que.
Yes. Sinon, il y a toujours l'internet. Hein, voilà.
Sinon, il y a l'internet, voilà.
Quelque part.
C'est clair. Donc, en deuxième série, bien sûr, je vais parler de Firefly. Donc là, on est en 2002, toujours au début des années 2000. Donc, Firefly, enfin, je pense que vous connaissez, au moins deux noms.
Oui, bah, je connais et j'ai vu. Alors, je sais pas si vous, Julie et Mika, vous avez vu et que vous connaissez.
Non, pas du tout.
Moi, j'étais fidèle au sœur Halliwell, moi, en 2002. Ça me dit rien du tout. Peut-être que j'ai entendu parler du truc, mais
c'est avec Nathan Fillion.
Ouais, en fait, c'est assez connu dans le.
Bah, c'est connu par des niches.
Chez
une
les fans
niche,
de
fait,
SF.
Un peu surtout,
ouais. Ouais, par une niche un peu de geek, un peu comme
moi.
Comme Marc ou moi, je crois.
Je pense.
Parce qu'en fait, Firefly, elle a acquis un statut vraiment culte, alors qu'elle dure juste une saison et qu'il y a eu un film sorti en 2005, un peu pour finir tout ça. C'est principalement en fait par faute d'audience et dû à ses coûts de diffusion des épisodes qui ont été diffusés aussi dans le désordre que Firefly a dû être écourté. Et au passage, elle a créé une importante cohorte de fans qui sont toujours actifs aujourd'hui. Donc on est 18 ans après et il y a toujours des gens qui parlent de Firefly et qui sont vraiment à fond. Donc la série, elle est créée par Joss Whedon, à qui l'on doit l'excellente série, la meilleure série du monde, j'ai envie
Buffy
de dire. Hein,
Buffy contre les vampires. Yes.
Ou encore les moins bons, un film Avengers. Bon, ça, c'est vraiment une remarque personnelle.
Et également Justice League, faut pas l'oublier, parce que le saccage de version de Snyder qui n'est pas encore sortie, se trouve elle est très mauvaise aussi. C'est Joss Whedon qui l'a faite.
Ok, je savais pas, mais je pense que j'irai pas la voir.
Il faut pas.
Ça s'est lâché. La suite. Donc Firefly, c'est quoi? En fait, c'est de l'ASF, c'est du space opéra, à la sauce western, un peu à la manière de Cowboy Bebop. Donc il me semble que Maxime a dû vous parler, je crois, de Cowboy Bebop à un moment.
Oui, donc, réécoutez. Mais il en a parlé, si vous avez écouté l'épisode 16, ouais. C'est l'épisode où on chantait d'ailleurs, comme quoi.
Ouais, on revient à l'épisode ouais. 16.
Donc ça, c'est un mélange que je trouve vraiment super cool, le mélange SF-Western. Ça cale tout de suite une ambiance, et même si vous êtes fan de Star Wars et que votre personnage préféré, c'est par exemple Han Solo, et que vous avez toujours eu envie d'être un contrebandier de l'espace, ben, faites Firefly, c'est la série que vous attendiez sans le savoir.
Ah mais complètement, ouais.
Ouais, non, c'est clairement ça. Pour le synopsis, on est au 26e siècle, et les humains ont colonisé un nouveau système solaire. En fait, on va suivre l'équipage d'un vaisseau qui s'appelle le Serenity. Cet équipage, c'est 9 personnes avec chacun leurs histoires, leur passé, leur caractère et leur personnalité, qui sont parfois très très différentes, et qui doivent collaborer pour survivre en marge de la société. Car en effet, en fait, la plupart ont combattu du côté des perdants lors d'une guerre galactique, qui n'est pas sans rappeler la guerre de sécession, mais dans l'espace, et le camp vainqueur, qui s'appelle l'Alliance, c'est une sorte de gouvernement centralisé qui est inspiré des États-Unis et de la Chine. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans la série, c'est que tous les personnages sont bilingues, et en fait, ils vont ponctuer leurs phrases de mots ou d'expressions en mandarin. Donc en fait, ce mélange de culture asiatique et occidentale, en fait, c'est montré de manière plutôt réaliste, et ce qui est super intéressant dans la série, parce qu'en fait, c'est assez crédible, surtout quand on essaie d'imaginer le futur de l'humanité. Et donc, dans Firefly, le système solaire, il est divisé en deux zones. Donc, il y a les planètes riches et industrialisées, et ensuite, on va avoir des planètes terraformées, qui vont être beaucoup plus pauvres, et avec un taux de criminalité qui est très élevé. Et en fait, on a une situation qui est proche de celle du Far West américain au 19e siècle. La technologie, bien sûr, en plus. Et à la limite du système, en fait, on va avoir une zone hostile où vont vivre les Reavers, qui sont des hordes de pirates cannibales qui sont craints dans toute la galaxie. Donc l'équipage, en fait, il va vivre de petits boulots à la limite de la légalité. Et il va chercher, en fait, à échapper à l'influence de l'Alliance. Et chacun a ses raisons pour ça. Pour le capitaine du vaisseau, qui s'appelle Malcolm Reynolds, qui est incarné par Nathan Fillion, comme tu l'as dit, Marc.
Oui.
Son but, c'est de conserver sa liberté, malgré sa défaite lors de la guerre, quitte à accepter, en fait, de vivre de vol ou de la contrebande. Donc c'est pour ça qu'on a un peu ce parallèle avec Han Solo. Et le reste de l'équipage, en fait, il est constitué de la seconde du vaisseau, qui est une ancienne soldate qui a combattu aux côtés du capitaine. On va avoir aussi un pilote, une courtisane, une mécanicienne, un mercenaire, un pasteur, un médecin renégat, avec sa sœur, qui est une enfant prodige sur lequel le gouvernement a fait des expériences. Tout ça, en fait, on dirait vraiment une super équipe de jeux de rôle. Et en fait, c'est ça qui va faire la richesse de cette série, c'est que les personnages vont être très vite identifiables, très vite caractérisables, et en fait, on comprend très bien leurs points forts, leurs faiblesses, sans non plus que ce soit des clichés ambulants. En fait, il va y avoir une finesse qui se retrouve à la fois dans l'écriture et dans le jeu des acteurs, qui rendent le tout très crédible et surtout super attachant. Donc, en fait, on vit avec les persos dans leur vaisseau, on va suivre leurs aventures pendant les 15 épisodes, et en fait, ils vont devenir un peu nos potes, voire notre famille, et en fait, comme dans tout groupe, que ce soit nos potes ou notre famille, chacun va avoir ses propres caractères, ses propres opinions, et c'est les différences qui vont rendre le tout vivant, attachant et crédible. Donc ça, c'est un peu la grande force de la série, les personnages et leur évolution, et les liens qu'ils ont entre eux. Et c'est quelque chose qu'on retrouve un peu dans les autres œuvres de Joss Whedon, que ce soit ses films où on a des groupes de super-héros par exemple, ou alors ses séries. En fait, ça va jamais être un personnage unique qui est au-dessus des autres, mais plus un groupe d'individus qui collaborent pour arriver à ses fins. Si on reprend un peu le parallèle avec Buffy, Buffy c'est un peu la leader de son groupe. Là, on a Malcolm Reynolds, qui est le capitaine du vaisseau, mais sans son équipage, c'est juste un mec normal. Bon, il est peut-être un peu débrouillard, un peu malin, mais tout seul, il est rien. Donc malheureusement, en plus de sa diffusion catastrophique et des désaccords en fait entre Joss Whedon et la Fox, que ce soit sur le scénario ou la technique, tout ça, ça a précipité la fin prématurée de Firefly. Donc cette annulation, elle a participé grandement à rendre culte la série auprès des fans, mais également aussi des amateurs d'œuvres de science-fiction où elle aura forcément sa place. Franchement, si vous aimez la science-fiction, je vois zéro raison de ne pas aimer Firefly. Surtout le genre du western science-fiction, c'est un truc qu'on retrouve dans des séries un peu actuelles, comme Westworld par exemple,
Oui. Où
on va retrouver tout ce qui fait un peu l'essence du western, avec des conflits territoriaux entre des gens, des disputes entre des individus et des familles dans des endroits paumés, des tensions qui précèdent les gunfights, tout ce genre de choses, mais avec toujours une omniprésence de technologies futuristes ou un peu fantastiques. Donc il y a un film qui s'appelle Serenity, qui est sorti en 2005, qui vient clore définitivement le chapitre Firefly, Il fait office de conclusion, il va fermer de nombreuses portes que la série a ouvertes, mais en même temps, il met un point final aux aventures de ces personnages. Et c'est dommage, parce qu'on a très envie de retourner dans cet univers qui est quand même très prometteur. Bon, le film en soi, il est très bien, mais vous verrez qu'il empêche un peu tout de suite à la série. Donc c'est une sorte de point final qui va nous rendre un peu nostalgique, surtout si on apprécie la série. Donc cette alchimie bien particulière qui se retrouve dans Firefly, j'ai longtemps cherché à la retrouver dans des séries de science-fiction, et malheureusement, en fait, très dur. C'est très rare de trouver des séries qui s'en rapprochent. Je sais pas si vous en connaissez.
Moi, j'en connais, mais ça rejoint ton truc de frustration. J'ai beaucoup aimé à l'époque, c'était il y a quelques années, Dark Matter.
Ah ben justement,
fallait en parler après, c'est ça. Voilà. Yes. On sait comment ça s'est terminé du coup. Donc, je te laisserai en parler.
Mika, Jules.
T'as un petit truc pas connu. Alors c'est pas dans le même style, c'est pas une série, mais c'est une série animée. Ça s'appelle Cowboy Bebop, je crois. Il me semble que c'est pas mal. Ouais.
Il en a parlé au début.
Je fais une petite...
C'est du second degré, les mecs.
Oh non,
on est tombé dans le panneau. Non.
Non, je regarde assez peu de séries, mine de rien, donc j'aurais pas de séries à vous conseiller pour retrouver cette ambiance. Après, c'est plus des space opera ou des trucs comme ça, mais il y aura pas le côté western derrière, quoi.
Et Jules, du coup, toi non plus, t'as rien?
Non, je t'avoue que je regarde pas trop non plus, j'ai pas énormément de
séries,
connaissances là-dedans. Ouais, non.
Ouais, c'est
je suis un peu un noob là-dessus. Du coup, j'apprends d'autant plus et j'écoute avec attention.
C'est bien. Il y a Romain dans le chat qui dit The Expanse, mais après The Expanse, c'est pas fini donc.
Ouais, et puis The Expanse, tu restes sur de la SF, qui est, même si c'est très original. T'as quand même des bases qui sont assez classiques.
Oui, et puis c'est de la SF, on n'est pas sur de la hard science, mais pas loin, quoi, quand même, donc.
Ouais, c'est ça. Du coup, moi, je voulais parler de la meilleure alternative, enfin, pour moi, que j'ai trouvé, c'est Dark Matter. Donc, Dark Matter, c'est une série SF qui est plutôt inspirée et qui met en scène, pareil, l'équipage d'un vaisseau. Dans l'épisode pilote, si vous voulez, c'est 6 personnages qui vont se réveiller de stase après un incident. Ils ont complètement perdu la mémoire. Et en fait, ils savent pas qui ils sont, où ils sont. Et en fait, ils se retrouvent juste accompagnés d'une androïde, un peu du genre de ceux qu'on retrouve dans Alien, c'est-à-dire des androïdes très anthropomorphiques. Et à la manière de Firefly, en fait, chaque personnage va avoir ses compétences dans un domaine particulier. Enfin, je vais pas trop spoiler, mais en gros, au début, leur vaisseau, il fait route sur une planète sans qu'ils sachent pourquoi. Bon, cette série, elle a vraiment un truc à elle, je trouve,
ouais, elle est
au niveau du développement des personnages, qui est assez proche de Firefly, parce que tu vois leur quotidien, tu vis avec eux, les personnages sont quand même assez attachants, et on a aussi un peu l'impression de faire partie de l'équipe avec eux. Il y a certains épisodes qui sont plus ou moins utiles, c'est vrai que la série est quand même assez inégale, mais bon, l'univers reste intéressant, les personnages développés, et il y a certaines scènes qui sont, que je trouve vraiment dingues. Il y a des moments que j'ai vraiment, vraiment kiffé dans Dark Matter. Je sais pas si tu veux rajouter des mots là-dessus.
Ouais, Dark Matter, c'est, je crois que c'est toi qui me l'as fait découvrir d'ailleurs, Dark Matter. Il me semble qu'on l'a regardé ensemble dans ton appart quand je vivais à Bordeaux.
C'est possible.
Je crois que c'est toi qui me l'as montré. Et franchement, ouais, c'est, le principe est fou parce que toi aussi, tu sais pas, en fait, ce qu'ils font là, tu découvres tout cet univers avec eux, en fait.
Ouais.
Et vraiment, j'ai même plus d'affection, je pense, pour Dark Matter que pour Firefly, parce que là où Firefly, t'as que 15 épisodes, Dark Matter, t'as quand même 3 saisons, il me semble.
Il y en a plus, hein.
Plus ?
Il y en a 4 ou 5.
Ah bah, tu vois, c'est... Oui, c'est que c'est des petites saisons, je crois, par contre, c'est pas forcément 24 ouais. épisodes. Mais ouais, t'en as quand même beaucoup, donc t'as le temps de t'attacher au perso, et c'est d'autant plus dramatique, car du coup, ça s'est arrêté aussi sans fin.
Oui.
Voilà, et c'est frustrant, parce qu'en plus, la fin, enfin, je veux dire, le final de la dernière saison, il était incroyable, et ouais. Ça a été annulé parce que du coup, ils avaient pas assez de budget pour maintenir deux séries de SF, c'était Dark Matter et l'autre série c'était je sais plus, avec la fille qui a les yeux bleus que j'ai oublié, qui est aussi une série des contrebandiers un peu dans le même genre. Ils ont préféré regarder celle-là que moi personnellement j'ai pas aimé parce que j'ai regardé que deux épisodes.
Killjoy. Et pareil, j'ai moins accroché.
Moi j'ai vraiment beaucoup moins accroché et je comprends pas pourquoi ils ont préféré garder Killjoy à Dark Matter alors que Dark Matter elle a un univers qui est incroyable. Après ça reste juste mon point de vue, je pense qu'il y a plein de fans de Killjoy qui ont été visiblement majoritaires par rapport aux fans de Dark Matter, mais bon.
Mais comme tu le soulèves assez bien aussi, ce qui est fou dans Dark Matter, c'est les débuts de saison et les fins de saison, ils sont super bien soignés en fait. T'as vraiment l'impression, même si des fois ça ouvre des portes ou si t'as des fins un peu ouvertes, ça résout pas mal de trucs, mais en même temps t'as envie d'en savoir plus. C'est plutôt bien fichu.
Je crois pas que ce soit sur Netflix, Romain, parce que
non,
je te pose la question. Je crois que c'est malheureusement nulle part. Donc ça veut dire qu'il faut le trouver sur l'internet mondial. Voilà.
Alors du coup, j'entame ma dernière saison d'aujourd'hui avec Dirk Gently, détective holistique. Pourquoi?
Tu prends un couteau là et t'es en train de me fracasser le... l'estomac avec. C'est une des meilleures séries du monde, Urgently.
Bah oui, mais on peut la brancher malheureusement dans cette catégorie parce qu'elle a été annulée au bout de 2 saisons seulement. Et donc la série, elle est sortie en 2016. C'est une libre adaptation des romans éponymes de Douglas Adams, qui est l'auteur notamment du Guide du Voyageur Galactique. C'est une série qui est vraiment hyper à part. C'est un peu un ovni hein, dans le monde des séries, je trouve.
Ah oui, complètement.
Je sais pas si vous l'avez vu, Jules, Mika.
Non, non, du tout non plus. Vraiment, je suis le gars le plus inutile du monde pour cette chronique. Je tiens à le dire. J'en suis conscient moi-même.
C'est pas grave, c'est pas grave. Ce qui est chouette, c'est qu'on va tous s'apprendre des choses mutuellement.
C'est clair. Donc, Dirk Gently, qu'est-ce que c'est en fait? On est dans de la comédie absurde, complètement, complètement déjantée, avec des éléments fantastiques, des éléments de science-fiction, et surtout une enquête. Donc, le personnage principal, il s'appelle Dirk Gently, et en fait, il est détective holistique, ou en tout cas, c'est comme ça qu'il se présente. Et sa méthode, en fait, pour résoudre ses enquêtes, c'est de se baser sur le fait que tout, que ce soit des choses, des personnes ou des événements, tout est interconnecté. Donc, ce qui fait que ces méthodes d'investigation, elles sont vraiment hyper tordues et incompréhensibles, sauf pour lui-même. Donc si quelque chose existe ou se produit, en fait, ça a forcément un lien avec son enquête, et ce qui aboutit à des paradoxes ou à des situations complètement, complètement loufoques. Donc un bon exemple, c'est la première saison où en fait, donc c'est une enquête qui est présentée un peu comme un gigantesque puzzle. On a quasiment tous les éléments dès le premier épisode, mais on comprend absolument rien. En fait, il faut que ça se développe petit à petit. Et en fait, le spectateur, il va comprendre peu à peu au fil des épisodes ce qui se passe et l'implication de chaque personnage dans les événements qui sont passés ou en cours, et même y compris Dirk Gently lui-même. C'est-à-dire qu'au début, on sait même pas pourquoi il est là. On sait même pas d'où il sort, on sait rien. Et d'ailleurs, en fait, j'en viens à la grande force de cette série, c'est le personnage de Todd. Todd, il est incarné par Elijah Wood, et en fait, il va rentrer dans l'action de la série en même temps que le spectateur. Et en fait, on va comprendre les éléments de l'intrigue en même temps que lui, du coup, on va beaucoup s'attacher à ce personnage, et c'est un peu à travers ses yeux qu'on va découvrir le monde qui nous entoure. Tout comme lui, en fait, on va souvent se sentir très dépassé par les événements, et en fait, il faut vraiment attendre l'épisode final pour comprendre un petit peu ce qu'on vient de vivre pendant, il me semble que c'est 10 épisodes.
Ouais, comme ça, peut-être même 12, un peu moins, 10, je crois, 8 ou 9, un truc comme ça.
Ouais, c'est possible. Donc ça se laisse regarder assez facilement. Si vous voulez tenter l'expérience, foncez, c'est très divertissant. Tout est complètement absurde, hein. Mais du coup, Todd, donc Elijah Wood, va nous servir de point de repère. C'est un peu comme le Dr. Watson. En fait, il va être l'acolyte, l'assistant de Dirk Gently. Et autour de ça, en fait, il y a toute une flopée de personnages qui vont graviter autour de ces deux ce duo principal. Tout un tas de personnages qui sont très extravagants, qui sont également partie intégrante de l'enquête. Et du coup, ça nous donne vraiment une sorte de thriller complètement halluciné du début à la fin, où l'intrigue va se dévoiler pas à pas, mais où tout va être lié et connecté. Donc là, la série, elle est dispo sur Netflix. Donc personnellement, j'ai jamais rien vu de comparable. Oui, donc je pourrais pas vous donner d'alternative. Il faut vraiment aller la voir, même par curiosité.
La seule alternative, je pense, que j'aurais là comme ça, qui me vient en tête, et encore, c'est pas vraiment une alternative, c'est que c'est ça me fait beaucoup penser à Doctor Who, surtout dans la manière où t'as le détective et t'as, comme tu dis, il l'appelle lui-même son compagnon, un peu comme si c'était son compagnon humain, comme dans Doctor Who. Pour moi, c'est une sorte de mix entre Doctor Who et Sherlock Holmes, mais en vraiment plus en complètement taré, quoi, en fait.
Ouais, c'est ça, puisque c'est vrai que Dirk Gently, il a ce côté un peu british, comment dire, un peu dandy,
ouais, voilà,
british. Du coup, il prend un peu tout de haut, et c'est vrai que le rôle du compagnon est assez important. Mais ouais, ça, il faut vraiment le voir, je pense, pour la vivre.
Foncer sur Netflix, parce que c'est même s'il y a que 2 saisons, c'est pas grave, parce que c'est il y a pas de finale à chaque. Enfin, il y a des finales à chaque saison. C'est une saison, une enquête. Mais ça aurait été juste pas mal d'avoir plus d'enquêtes, parce que la saison 2 aussi, elle est ouf. Enfin,
c'est très frustrant hein, quand on sort des 2 saisons.
Bah, surtout quand on voit le nombre de merde qui continue à exister en termes de séries, et qu'une bonne série comme ça, intelligente, bien pensée, cesse d'exister, c'est souvent. Enfin, moi, ça me révolte, en fait, tout simplement. Voilà.
Ouais. Donc voilà, vous comprenez bien le but de cette chronique, hein, c'est de nous frustrer tous ensemble.
Yes, merci Nico.
Et on a fait le tour pour aujourd'hui. Donc pour finir, petite conclusion, des séries annulées, il en existe plein d'autres. peut mentionner par exemple Sense8,
ah, oui, Sense8.
Qui a été annulé mais qui a été en partie sauvé par les fans.
Morflet,
on peut aussi mentionner Daredevil, même si moi les super-héros ça me gave, il y avait quand même des points forts, il y avait quand même des qualités. Il y avait une petite série que j'avais bien aimée il y a quelques années qui s'appelait Siberia, qui est une série horrifique, qui est très peu connue, mais qui était bien prometteuse. C'était un peu filmé à la Blair Witch et c'était sur une télé-réalité qui se tourne mal dans la nature. Voilà, le but aussi, c'est de vous faire participer. Donc, si vous avez des idées de séries que vous aimez, qui ont été annulées, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Et puis, je me retourne vers mes invités. Vous aussi, je suppose que vous avez sûrement des idées.
Ben, est-ce que vous avez des idées, les gars, Jules et Mika, ou vous êtes vraiment complètement pas du tout dans le sujet?
Ça va, Jules?
Putain, j'ai vraiment l'impression d'être l'invité le plus nul du monde, là, à ce moment-là. Le gars qui sert à rien, qu'on regarde dans le fond de la salle, on fait, non, mais attends, lui, on verra plus tard. Pour l'instant, lui demander rien.
Je suis vraiment désolé.
Non, c'est moi. Non, mais je t'avoue, du coup, je sers pas à grand-chose.
Mais je suis désolé.
Mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça.
Toi aussi, t'es devant ton écran, comme ça, en tenant le menton, en faisant...
C'est ça. Non mais par contre, pour de vrai, tu m'as vraiment donné envie de regarder tout ça.
Yes.
Bon, je sais, du coup maintenant je vais être frustré, ou moi je suis je pars de ce postulat de base, mais
au moins t'es prévenu.
Mais mine de rien, t'as donné envie d'être frustré, et ça c'est beau.
Et c'est, ouais, ça c'est beau, c'est clair. Regarde au moins Dirk Gently, je pense que c'est parmi toutes celles que t'as citées, à mon avis, mm-hmm. Nico, pour moi c'est la meilleure. Mais après c'est spécial, hein, c'est
ouais.
Parmi les séries un peu comment dire ça gentiment qui ont été annulées. Moi, ça m'a vraiment gavé d'avoir la suppression de Marvel Télévision pour en revenir aux super-héros parce que j'aimais beaucoup effectivement Daredevil et surtout Jessica Jones que je trouvais très très bon.
Ah.
Et savoir que c'était annulé parce que c'est rapatrié à la maison mère entre guillemets, ça me pète un peu les couilles parce qu'on quand on voit ce que fait Disney de manière générale, alors que Daredevil c'est un mec qui tabasse des gens à main nue avec du sang partout, tu sais très bien qu'ils ne referont jamais la même chose. Donc d'ailleurs, alors je sais pas si c'est, j'y pensais tout à l'heure parce que quand tu parlais de Firefly, c'est la Fox qui l'a fait, donc ça veut dire que...
C'est la Fox.
Est-ce que ça veut dire que par extension, c'est Disney maintenant qui possède les droits de Firefly?
Je sais pas, parce qu'ils sont toujours sur Netflix, hein, il me semble qu'on peut les voir sur Netflix.
D'accord.
Encore, donc je sais pas.
Vu que Disney a racheté la Fox, peut-être que ça l'est pas encore.
J'en ai une, je crois, enfin avortée, oui, il y a qu'une saison, mais c'est dommage qu'ils aient pas prévu la deuxième. Donc ça peut discuter.
On est dans le sujet.
C'est Marianne, je sais pas si vous en avez entendu parler.
Ah, pas du tout, non.
Qui est une série horreur française en plus, qui a été sponsorisée par Netflix du coup.
Ah, je crois que j'en ai entendu parler. Ouais.
Qui a même été adoubée par Stephen King.
Ah, oui.
Stephen King qui a ouvert la gueule pour dire que c'était très bien et pour qui Netflix a dit que de toute façon ils allaient pas renouveler la série quoi. Donc ça va rester à une saison. Bon après voilà, pour une série d'horreur ça peut se discuter l'intérêt d'en faire une deuxième ou pas, tu vois. Mais mine de rien, c'est vrai qu'il y a vraiment un potentiel. C'est une série en fait où c'est une écrivaine qui écrit des bouquins d'horreur, où en fait elle a une héroïne qui combat en gros l'esprit d'une sorcière qui peut aller popper dans les gens pour leur faire du mal quoi. Ouais. Et donc elle essaye un peu de lutter contre ça. Bon elle en a marre d'écrire ces bouquins là, donc elle fait tuer son héroïne. Et là en fait elle a une amie d'enfance qui vient la voir pendant une de ses dédicaces, qui lui fait ouais tu te rappelles de moi, alors elle fait oui ok. Ça remonte à loin. Il lui fait, en fait, faudrait que tu viennes parce que ma mère, elle a lu tous tes bouquins et tout. Et en fait, elle se prend vraiment donc, pour la sorcière qui s'appelle Marianne. Et elle dit, en fait, tout ce que t'écris, c'est vrai. Ça existe vraiment. Et c'est pas pour rien que tu l'écris. C'est parce que, t'en rêvais quand on était gosse. Enfin, tu t'en rappelles pas. Parce qu'on a, voilà. Et non. Bon. Au final, sa pote se suicide devant elle. Du coup, ça la motive quand même à aller voir sa mère. Et on part sur une grosse ambiance de base.
Ouais, ça.
Et en fait, elle va y aller. Elle va se rendre compte qu'effectivement, tout est vrai. Enfin, on se rend compte très vite, c'est pas vraiment du spoil. Et c'est très très dérangeant. C'est très très dérangeant. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de doute.
T'as pas aimé du coup
Moi j'ai détesté.
Ah, t'as détesté?
Ouais, en fait j'ai grave kiffé l'épisode pilote, mais en fait t'as rien de plus. Enfin, l'esthétique est belle, le jeu d'acteur est... Enfin, j'ai pas aimé. Après c'est vraiment une question de goût. Hein.
Ah oui, non mais de toute façon, pour beaucoup de gens, Dirk Gently c'est de la merde hein, par exemple. Hein.
Ouais.
La vieille je l'ai trouvée vraiment impactante. Oh, mais les derniers épisodes, ok, c'était too much. Mais c'est généralement le problème avec les trucs d'horreur. Mais...
Sur la forme, il y a des idées pas mal, il y a des trucs sympas. Mais c'est... Enfin, on en parlera.
C'est ça aussi qui est marrant, c'est que les séries ça divise énormément aussi les gens. C'est aussi pour ça que souvent c'est la majorité qui gagne et qu'il y a une grosse partie de séries qui sont annulées et d'autres qui ne le sont pas. Moi, j'avais une série qui me venait en tête qui est Flash Forward, que j'avais regardé quand j'étais ado, qui a eu pareil qu'une seule saison et qui a jamais eu de fin, que très peu de monde connaît en fait d'ailleurs, je pense. En gros, il y a une catastrophe mondiale et en fait, tout le monde a réussi à percevoir son futur de 5 ans plus tard, je crois, un truc comme ça. Et du coup, le monde doit vivre avec la connaissance de chaque citoyen, la connaissance de son futur. Et parmi ces gens-là, bah, y a forcément des gens qui savent qu'ils vont mourir parce qu'eux, ils n'ont rien vu, des trucs comme ça. Et c'est assez. Et tu suis un groupe de personnes, c'est assez intéressant. Et puis, ça n'a pas eu du tout de succès, en fait. Et ça a été purement et simplement annulé. Je pense que ça a été une des premières frustrations que j'ai eues de séries annulées. Avec Heroes aussi, qui.
Ah ouais!
Bon, même si ça a été annulé, annulé au bout de 4 saisons, avec les 2-3 dernières commençaient vraiment à pas être bonnes, ça reste quand même un peu une sorte de gâchis parce que les deux premières étaient quand même très, 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 très bonnes aussi. Enfin bref, bah, je pense que, enfin, à moins que quelqu'un ait autre chose à rajouter, parce qu'en fait, ça peut durer pour l'éternité, vu le nombre de séries qui existent dans le monde.
Oui, c'est pour ça.
Je me sens un petit peu effondré, là, en ce moment. Et,
c'est la transition la plus nulle de la Terre, de
mais je me sens tellement effondré qu'il faut que je laisse la place à Jules. Je te laisse la place, Jules, vas-y.
Merci Marc pour cette transition toujours de qualité.
Mais merci. Je suis connu pour ça maintenant.
Et effectivement, alors moi aujourd'hui je vais vous parler d'effondrement, donc avec un S. Je vais pas vous parler de l'effondrement, mais on va quand même pas forcément parler de trucs très gays. Enfin, on verra sur la fin. On va faire déjà une petite introduction sur ce que c'est qu'un effondrement. Je parle donc logiquement parlant, hein, ce que c'est que des cailloux qui tombent et pourquoi ça tombe. On va essayer de se fixer un peu une échelle de valeur, hein, pour pouvoir un peu comprendre un peu la taille des écroulements qu'on va voir aujourd'hui. Et puis après, on va parler de différentes histoires autour de ça. Je vais essayer de rendre ça le plus storytelling possible. Cette phrase est absolument mauvaise, mais bon. Voilà. Histoire que ce soit un peu marrant. Alors déjà, pour vous, à quoi est-ce que ça pourrait être lié un écroulement? Pourquoi est-ce que des blocs tombent?
L'érosion?
Un séisme?
Alors l'érosion, ça va être trop vaste.
Ah.
Parce qu'en gros, l'érosion, c'est juste, bon bah voilà... Petit à petit, les cailloux disparaissent, ça peut stabiliser les trucs et tout. Est-ce que vous avez des idées plus précises?
Un séisme?
Alors, on peut avoir de la tectonique, ouais, pourquoi pas des secousses, même des failles qui ont pu déjà précasser la roche.
Des mecs qui font tomber
des actions animales.
De quoi?
Vas-y, Mika.
Ah non, vas-y, Mika.
Moi, je disais des gens qui font tomber des cailloux, genre, tu veux tailler un truc, ça tombe.
On peut avoir des mouvements, en fait, tout simplement gravitaires. On peut même avoir, pourquoi pas, un chamois qui fait tomber quelques blocs, puis ça fait tomber un plus gros bloc et tout. Mais là, pour le coup, ça va plutôt être sur de l'éboulis, des petits cailloux qui tombent sur le long d'un versant.
Ah, j'aurais envie de dire la foudre, non?
Pourquoi pas, mais on sait être très très ponctuel pour le coup.
D'accord, ok.
Pour avoir un effondrement, au-delà de la tectonique, voilà, on va avoir de la cryoclastie, c'est par exemple le gel. Bah, l'eau qui va geler dans la paroi, dans les petites fissures, le gel prend plus de place que l'eau, donc forcément, bah, mécaniquement, tac, on va faire péter, en fait, le petit espace entre la roche. On a également la thermoclastie, en fait, bah, la roche va plus ou moins, comme toute autre matière, en fait, gonfler, en quelque sorte, avec la chaleur, ou se rétracter avec le froid. Alors, c'est infime, hein, mais sur la longueur, en fait, petit à petit, vous pouvez fragiliser votre roche. Et ça peut expliquer quelques événements. On a également la pélovide, par exemple, dans le cas d'une falaise, l'intégralité de la face qui est en contact avec le vide va être appelée, puisqu'elle est portée par rien devant, à davantage aller en direction du vide. Ça peut juste jouer sur quelques fissures qui vont s'agrandir de quelques centimètres, quelques millimètres. Ça peut aider.
C'est une sorte de phénomène gravitationnel, en fait, du coup, c'est ça?
Ah, totalement, d'accord, totalement. Et on va y venir, ça a aidé à un écroulement, le premier qu'on va venir, et que vous connaissez d'ailleurs. On peut avoir également la fonte du pergélisol, en français, donc le permafrost, cette espèce donc, de sol gelé, hein, qui, en fait, peut se trouver entre les failles, entre les fissures, et puis qui, en fait, tient le tout. Ça, en montagne, ça explique énormément de faces, et la fonte de ce pergélisol, donc, bah, peut déstabiliser les parois, qui sont, bah, habituées à ça. Et enfin, on peut avoir un phénomène de décompression. Typiquement, une paroi qui est habituée à être poussée de tous les côtés, si cette poussée s'arrête, bah forcément la paroi va devoir se rééquilibrer et donc bah elle se casse un peu la tronche. Typiquement, c'est ce qui est arrivé pas mal à la sortie de l'âge glaciaire, quand il y avait des vallées qui étaient habituées à avoir un glacier qui poussait de tous les côtés du versant, puis bah quand le glacier retire, bah la paroi se réajuste en fait et tac, il y en a qui s'effondrent. Voilà, en gros, les différents phénomènes qui peuvent plus ou moins influencer le pourquoi ça se casse la tronche. Ça va pour tout le monde?
Bah ça va. Ouais. On boit tes paroles, okay. Hein, t'inquiète pas.
Super. Alors si on est d'accord là-dessus, on peut commencer à parler d'effondrement. Alors aujourd'hui, on a du mal à prévoir ce genre d'événement. L'instrumentation est compliquée, vous en doutez, et puis ça donne pas vraiment de résultats très probants pour l'instant. Mais par contre, on sait les reconnaître dans le paysage. On sait reconnaître des niches d'arrachement, hein, c'est l'endroit d'où est parti l'écroulement. On voit les dépôts d'écroulement, ou alors si vous êtes arrivé en montagne, de voir une végétation qui a à peine repoussé à un endroit. Bon là, c'est pour attester de quelque chose de très récent. Mais il y a des choses qui sont beaucoup plus anciennes. Par exemple, et vous le connaissez, on a le cas de la grotte Chauvet-Pont d'Arc.
Yes.
Alors la grotte Chauvet, elle est donc scellée par un écroulement, donc vous le savez, trois écroulements successifs, respectivement il y a 29 400, 23 500 et 21 500 ans. Alors là justement, on est sur un appel au vide de la paroi, on est sur une paroi donc, face au cirque d'Est. En fait, cet appel au vide va jouer sur des failles, hein, qui vont davantage s'écrouler, raison pour laquelle d'ailleurs vous avez davantage de morphologie d'écroulement dans les premiers secteurs de la grotte, qui sont le plus en contact avec l'extérieur, parce que c'est là que c'est le plus, ça joue le plus en fait. Puis avec le gel, avec la température, petit à petit, on va avoir des phénomènes d'effondrement. Cet écroulement, il va juste nous permettre d'avoir un petit peu un ordre d'idée de ce à quoi correspond, ce que ça veut dire en fait un écroulement. La grotte Chauvet donc a été scellée par trois écroulements. Le premier à 29 400 faisait 517 mètres cubes. Le deuxième, il y a 23 500 ans, faisait 1330 mètres cubes. Et enfin le dernier, il y a 21 500 ans, faisait 2115 mètres cubes. Au total, c'est donc 5567 mètres cubes qui ont scellé la grotte Chauvet jusqu'à nos jours.
Ah oui, quand même.
Ça fait quand même une sacrée dose de caillasse.
Ah bah oui, carrément.
5500 mètres cubes. Rappelez-vous de cette valeur, ça va être notre échelle pour toutes celles qu'on va voir maintenant.
5500 mètres cubes, ok.
5500 mètres cubes. Parce qu'effectivement, il y a des effondrements beaucoup plus importants. Par exemple, je sais pas si vous avez déjà entendu parler des torues. Des RUS.
Pas du tout,
non. Qu'est-ce que c'est ?
C'est
l'arête des drues. Ah oui, une pluie drue, oui, ça pourrait. Mais non, ça c'est. Là, on va plutôt être sur une montagne. En fait, c'est une arête qui est très connue dans le massif du Mont Blanc. C'est une paroi de granit qui fait 1000 mètres de hauteur, 1 km de haut, hein, avec une pente moyenne supérieure à 75 degrés. C'est une paroi immense en fait. Et donc, dans les années 50, elle attirait la convoitise de beaucoup, beaucoup d'alpinistes. Et c'est au final un monsieur qui s'appelle Bonatti qui a réussi à la monter, donc le 17 août 55.
Ça me dit quelque chose ce nom Bonatti.
Ah, lui est très connu, c'est un alpiniste très connu. Il a lutté pendant 6 jours à coups de marteau avec son matériel des années 50 pour réussir à monter au sommet le 22 août après 5 bivouacs dans la paroi. Donc, vous imaginez un exploit incroyable et puis donc une renommée de ce pilier Bonatti, comme on l'a appelé, qui a dépassé toutes ses espérances. Et pourtant, le samedi 10 septembre 2011, à 15h40, commence l'effondrement de la montagne. Cet effondrement, il va durer jusqu'au dimanche, enfin le lendemain en fait, à 10h20, et au total, c'est 60 000 mètres cubes qui s'effondrent.
Putain, le char.
60 000 mètres cubes qui s'effondrent, et qui ébornent à vie une des montagnes la plus connue des Alpes. C'est un effondrement donc majeur, vous en doutez, par rapport, rappelez-vous, aux 4500 mètres cubes de Chauvet. 4500 à 60 000 mètres cubes.
60 000 mètres cubes, oui, on n'est pas sur la même ambiance, quoi.
J'avoue, ouais.
Exactement.
T'as dit 5500.
Ah, 4500, excuse-moi.
Ah, tu vois, il fallait s'en souvenir.
Exactement.
Bien
c'est
joué,
pour ça
que
c'était un test.
Bien sûr, là, tout était prévu.
Et pourtant, 60 000 mètres cubes, ça peut paraître donc impressionnant par rapport à Chauvet. En réalité, on n'est toujours pas dans la catégorie des méga-écroulements qu'ont pu connaître les Alpes. Et c'est là, du coup, qu'on va partir sur les deux histoires que je vais vous raconter aujourd'hui, les deux histoires de méga-écroulements qu'ont pu marquer les Alpes. Alors le premier, bon, pour le coup, personne ne l'a trop connu. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez la haute vallée de la Maurienne.
Oui.
C'est en Savoie.
Je connais trop mal les Alpes.
En même temps, t'es de l'Ouest, Nico, c'est normal.
Alors la vallée de la Maurienne, vous empruntez la vallée de la Maurienne pour traverser le tunnel de Fréjus jusqu'à l'Italie. Sauf que c'est une vallée qui est en L, donc une fois que vous avez fait tout droit jusqu'au tunnel, en fait, l'autre partie de la vallée bifurque sur le côté et remonte. Donc ça, c'est la partie qu'on appelle la haute vallée de la Maurienne. Donc c'est une partie qui est beaucoup plus paumée, hein, y a pas d'autoroute qui y passe, là on est vraiment sur la montagne. Mmh. Et quand vous y êtes en voiture, vous voyez, c'est des vallées glaciaires, hein. Une vallée glaciaire, c'est une forme de U. C'est très plat au milieu, très plat en bas, et puis il y a des parois très abruptes sur les côtés. Bon, normalement, ça pose pas trop de problèmes du coup à conduire. Et puis là, d'un coup, au niveau du village de Bessan, vous allez commencer à monter en épingle, jusqu'à déboucher sur une immense plaine de l'autre côté. Et ça, c'est quelque chose qui a intrigué pas mal de géomorphologues, donc, du coup, pendant quelques temps. Et en fait, ils se sont rendus compte que toute cette montée qu'on fait dans la vallée, c'est en fait le dépôt d'un immense écroulement, dont la niche d'arrachement, donc l'endroit dont les blocs sont partis, a pu être identifié à environ 2000 à 3000 mètres d'altitude au-dessus. Au total, l'écroulement, qui a donc en fait totalement bouché la vallée, vous imaginez un écroulement qui est parti du versant, qui a tapé de l'autre côté de la vallée, ça l'a arrêté, et du coup il est revenu un peu en arrière. Imaginez un peu la puissance du truc.
Ah oui, bah,
on parle ici en fait de 100 millions de mètres cubes.
100 millions de mètres cubes, putain,
donc vous avez 100 millions de mètres cubes qui sont partis de la montagne à 3000 mètres d'altitude, qui ont tapé en bas, qui se sont répandus de l'autre côté de la vallée, qui ont tapé sur l'autre face de la vallée, qui sont revenus en arrière. Donc en fait, ces 100 millions de mètres cubes ont totalement bouché donc la vallée, et donc ont coupé la rivière de l'Arc qui arrivait là. Ce qui fait que ça a créé un immense lac derrière.
D'accord.
Et ce lac, notamment, il a bouffé dans quelques peintures rupestres qu'on peut encore aujourd'hui voir tout au fond de la vallée, qui s'appelle Eh bien, je ne me rappellerai pas le nom.
Ah merde.
Mais c'est en vallée de la Haute-Maurienne. Le roc de la Balme. Si, le roc de la Balme. Donc vous avez cet immense effondrement qui a totalement fermé la vallée et créé un immense lac de barrage. Là, on est sur quelque chose d'assez majeur. Par la suite, l'Arc, donc la rivière, va quand même réussir à déborder de cette espèce de lac, puis va inciser, va creuser, et va créer un canyon dans l'écroulement, en fait, qui fait 150 mètres de profondeur. Il est super impressionnant à voir, on peut le voir encore aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, ce que vous avez une immense plaine, c'est tout plat derrière, parce que le lac a déposé plein de sédiments pendant quelques temps, qui est fermé par une immense pente, en fait c'est la pente de l'écroulement, et puis sur le côté, vous voyez en fait l'Arc a créé une énorme gorge, c'est les gorges de l'Arc. Et ça, donc, l'écroulement de la Madeleine, c'est un écroulement majeur pour le coup de l'histoire des Alpes. 100 millions de mètres cubes, c'est vraiment étonnant. C'est vraiment quelque chose qui n'arrive pas souvent. Vous imaginez bien, c'est vraiment immense. Mais ça, du coup, personne n'a trop pu le voir. Parce que, bon, là, vous vous en doutez bien, c'est difficile, en fait, de dater un écroulement. On a du mal, pour Chauvet, on a pu dater parce qu'on a regardé, on a regardé au niveau de la paroi, on a fait des datations au niveau de la roche.
D'accord.
Là, pour l'échelle de l'écroulement de la Madeleine, c'était compliqué, d'autant plus qu'on a commencé à l'étudier dans les années 60, où on n'avait pas ce genre de technique. C'est un étudiant qui a trouvé dans le cône d'écroulement une aiguille de mélèze, donc une matière organique,
d'accord,
qu'on a pu dater, et donc aujourd'hui, on estime cet écroulement à environ 7000 ans.
À 7000 ans seulement ?
C'est récent.
7000 ans seulement, donc.
Ah oui, c'est récent.
Des gens ont pu le voir, peut-être, ont pu d'un coup voir la vallée se fermer.
Le subir aussi, surtout, du coup.
Le subir, exactement. Bon, ce qui est bien, c'est qu'à l'époque, c'était pas trop trop dense au niveau population, donc bon...
Oui, ça va.
Ce serait quand même vraiment un sacré coup de malchance d'être tombé dessus. Mais potentiellement, oui, des gens ont pu le voir ou ont pu se retrouver dessous.
Mais c'était brutal comme événement ou c'était progressif ?
Ça a été d'un coup. Là, oui, justement, c'est ce qui différencie les écroulements des éboulements, enfin des éboulis.
Ah oui, d'accord.
Un éboulis, c'est quelque chose où des cailloux partent petit à petit dans la pente.
C'est une sorte d'avalanche.
Petit à petit, ça vous fait un gros tas en bas.
D'accord.
Là, c'est d'un coup, 100 millions de mètres cubes partent.
Ah ouais. Impressionnant.
En fait, tu peux rien faire. Si t'es en dessous, si t'es à un endroit de la vallée, en fait, c'est mort. Quoi.
C'est
Ah, c'est fini. C'est absolument fini. Il n'y a plus rien à faire. Mais bon, là, pour le coup, il n'y avait personne.
Ah, t'imagines, il y a 7000 ans, t'es là, et tu te regardes les deux montagnes se faire un petit ping-pong au milieu de la vallée, là.
Exactement. Juste imagine la dose de fumée, le bruit que ça doit être. Ça doit être impressionnant.
Ouais, tout ce que ça doit amener, quoi, c'est...
Ah oui, oui. C'est quelque chose vraiment impressionnant. Et ça nous amène à notre deuxième histoire. Alors, la deuxième histoire, elle va être un peu plus détaillée, et elle va se passer au niveau d'une ville dans laquelle je viens d'aménager, qui s'appelle Chambéry.
Oh!
Qui est une ville, donc, de Savoie, et qui a connu le plus grand effondrement de toute l'histoire des Alpes. Un truc qui a absolument bouleversé les consciences pendant toute la période médiévale. Alors, pour vous raconter cette histoire, faut d'abord que je vous dresse un peu de contexte. Bon, Chambéry, donc c'est une ville qui est au bord du lac du Bourget, qui est entre le massif des Bauges, le massif de la Chartreuse, dont tout le monde connaît le nom, mais pas forcément par rapport à la montagne, et l'avant-pays savoyard, qui donne sur lui. Et en fait, massif de la Chartreuse est matérialisé au niveau de Chambéry par une véritable frontière de falaises, de parois énormes, notamment le Mont Granier. Alors le Mont Granier, c'est une montagne qui monte jusqu'à 1933 mètres d'altitude, quasi 2000 mètres. Hein. Faut savoir que Chambéry, ça va à environ 300 mètres d'altitude à peine. Donc on a une montagne qui domine de largement plus d'un kilomètre la ville de Chambéry. C'est une immense face. Alors la face en elle-même fait que 900 mètres, parce que bon, il y a une pente quand même qui va de Chambéry à la montagne. Mais vous avez quand même une énorme face de 900 mètres de juste parois, très très blanche, qui domine totalement Chambéry. Hein. Quand on est à Chambéry, on voit que ça. Le Granier, c'est vraiment... Puis ça a même un profil très particulier, hein, qu'on remarque bien. Et donc, c'est, voilà.
C'est très joli, d'ailleurs.
Ah oui, c'est vraiment une montagne très, très jolie, qui a été en fait recoupée. Bah, là, on parle de millions et de millions d'années en arrière, qui a été recoupée par les cours d'eau, en fait. Et voilà, donc ça, là, on a le granier qui est un élément majeur de ça. Et puis, on a donc le lac du Bourget, un grand lac, en fait, le plus grand lac non artificiel de France, si on exclut l'élément dont on a une petite partie au niveau de la Suisse. Et c'est un lac qui a été laissé, donc qui est très long, qui est tout en longueur, et qui a été laissé par le retrait d'un glacier lors de la dernière phase glaciaire. En fait, le glacier a buté au bout, et puis, bah, lui, il a continué à avancer, donc ça a raclé le fond. Et bah, quand lui s'est retiré, bah, il y avait une espèce de cuvette, et les autres fonds de glaciaire sont allés dedans, et ça a fait un lac. C'est le même principe qu'a fait le lac d'Annecy, par exemple.
D'accord.
Et ce glacier, quand il s'est retiré, bah, il a laissé des dépôts avec lui, en fait. Des espèces de traînées, un peu longues, de monticules, ou autres, qu'on appelle, alors, il y a plein de noms un peu barbares pour ça, des esquers, des drumlines. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a donc des dépôts un peu en longueur, et surtout surélevés, qui sont laissés par ce glacier. Et ça, c'est une histoire sur laquelle on reviendra. Alors, l'histoire en elle-même, elle commence dans la nuit du 24 au 25 novembre 1248. À l'époque, la région de Chambéry est connue à travers l'Europe et rayonne dans le territoire de l'époque sous le nom du territoire de Sapodia. Alors on y retrouve, à l'endroit qui nous intéresse, 5 paroisses, qui sont les paroisses de Granier, de Cognin, de Vouray, de Saint-Prénange et de Saint-André, la capitale religieuse de l'époque, siège du décanat de Savoie. Alors imaginez un peu le contexte. Il pleut maintenant depuis plusieurs jours. Pas de la petite pluie, il pleut vraiment violemment depuis plusieurs jours. Il y a l'orage qui fait rage dehors. La nuit tombe, sous le bruit des gouttes sur les tuiles, toujours dominé par la face imposante du mont Granier. C'est une nuit très sombre, donc on voit pas grand chose, vous imaginez en plus avec les nuages et la pluie. Et les habitants savent pas que en réalité, en se couchant, ils vont pas forcément se relever. Si vous aviez habité à Saint-André ce soir-là, vous auriez peut-être été réveillé d'un coup par une secousse. Bon, vous levez, vous entendez toujours la pluie à la fenêtre, vous allez à la fenêtre. Là, vous allez entendre un énorme bruit, mais un peu sourd, un peu loin. Alors vous regardez dans la nuit, mais vous n'arrivez pas à voir bien plus loin en fait que les maisons. Encore une fois, il fait nuit noire, les nuages bloquent tout et il pleut. Bon bah au bout d'un moment donné, vous allez voir le voisin ou je sais pas, vous abandonnez. Et pourtant c'est déjà trop tard. En fait, ce qui vient de se passer, c'est que au niveau du mont Granier, les strates calcaires de la base de la paroi, à cause de la pluie hein, tout simplement, qui les a rendues plus lourdes, glissent et emportent avec elles la partie de la paroi au-dessus. En quelques secondes, c'est toute une partie de la montagne qui part. Je vous parle de 500 millions de mètres cubes qui chutent de plusieurs centaines de mètres et qui s'écrasent d'un coup sur le sol. 500 millions de mètres cubes, ça n'a aucun sens. Le problème, c'est que cette masse énorme, en s'éclatant sur le sol, elle a le malheur de tomber sur une couche géologique qu'on appelle des marnes. En fait, c'est une espèce de truc avec un peu d'argile dedans, si vous voulez, qui est imperméable. Et le problème, c'est que ça fait des jours que ça flotte. Et donc, en fait, vous avez pas mal d'eau par terre qui a pas pu s'infiltrer. Là, d'un coup, vous avez 500 millions de mètres cubes qui chutent de plusieurs centaines de mètres sur quelque chose de mouillé. C'est instantané, l'eau est vaporisée littéralement, ce qui fait un aérosol. En fait, ça vous fait un petit coussin de vapeur, si vous voulez, qui va porter l'écroulement. Et donc, au lieu de simplement tomber en bas et s'étaler comme il le peut, en fait, l'écroulement va tomber et partir extrêmement vite, extrêmement loin, en emportant avec lui une partie du versant. Au total, l'écroulement va recouvrir une superficie de 20 km², soit en fait 8,5 km de long et 5,2 km de largeur, avec une superficie d'écroulement, enfin de bloc, de 150 millions de mètres cubes. En un instant, dans la nuit, tout est rasé. Imaginez-vous, à l'époque, vous êtes dans le village, vous ne voyez même pas la menace venir. C'est totalement noir, il pleut, vous l'entendez à peine. Mais d'un coup, il n'y a plus rien.
C'est un claquement de doigts et vous êtes mort.
C'est clair.
Tous les villages dont je vous ai parlé auparavant ont tous été rasés dans la nuit. Il n'y a rien eu à faire. Et il n'y a eu aucun survivant.
C'est pour Pompéi alpin.
Exactement. Alors on estime aujourd'hui à plus de 1000 morts, ce qui pour l'époque est important.
Surtout si c'est encore 3 paroisses dans la foulée.
Tout a été rasé. À l'exception de Notre-Dame de Muant. Notre-Dame de Muant, c'est une petite église, une petite chapelle, qui est située, rappelez-vous, sur un petit dépôt glaciaire. Un petit monticule laissé par le recul d'un glacier. Et au moment où les tonnes de blocs vont partir dans le versant, eh ben ils vont simplement contourner la colline. Imaginez-vous dans cette église ce soir-là. Après un bruit sourd, vous entendez dans la nuit noire, sous pluie battante, un vacarme de blocs et de cris autour de l'église. Et puis plus rien. Vous comprenez pourquoi à l'époque, on a cru que c'était des démons venus de la montagne qui détruisirent la région du fait du péché des fameuses victimes, mais qui furent arrêtés par la statue de la Vierge Noire qui se trouvait dans cette église. Et ainsi, à cause de ça, à cause au final, rappelez-vous, simplement d'un petit monticule laissé par un glacier il y a des millénaires, cette église est devenue un site de pèlerinage depuis cette époque.
Ah ouais, c'est tout. À l'heure actuelle encore.
C'est fou.
À l'heure actuelle encore.
D'accord.
Notre-Dame de la Protection.
Notre-Dame de la Protection.
Alors cette région, donc, qui a totalement été rasée en une nuit, elle a pris l'aspect d'un chaos de blocs, une espèce voilà, avec d'énormes pierres, hein, des fois de la taille d'une maison quand vous y allez, c'est assez impressionnant de voir une fois une baraque et puis une énorme pierre à côté, parsemée de trous et d'étangs. C'était une zone nue et stérile qui a été réappropriée par les habitants au XVIIIe siècle pour la vigne. Et cette région, donc, qu'on avait appelée les abîmes, c'est les habitants de la région qui l'avaient appelée comme ça, du fait de la désolation qu'il y avait eu, a donné naissance au cru des abîmes, qui est maintenant le deuxième cru du vignoble savoyard en termes de notoriété.
Oh!
Comme quoi,
il y a du bon?
Wow.
Et donc aujourd'hui, vous pouvez voir votre bière de vin en terrasse aux abîmes en regardant le granier et en sachant que, en fait, et c'est ça qui est intéressant, ça peut retomber à tout moment. Comme je vous l'ai dit en début, on n'a aucun moyen de prévoir un écroulement ou non. Et le granier continue de se casser la gueule assez régulièrement. Alors on n'est pas.
Il est tombé il n'y a pas longtemps, là, je crois, d'ailleurs.
Et il est tombé il y a deux ans. Il est tombé il y a deux ans. Par exemple, il y a une petite auberge qui est au niveau du col du granier. Pareil, ça s'est passé dans la nuit, d'ailleurs. Ils ont entendu des énormes bruits. Le gars est sorti avec sa frontale. Ils sont partis dans les forêts pour voir ce qui s'était passé. Puis d'un coup, il est tombé nez avec un énorme bloc qui venait de tomber. Donc oui, c'est assez violent et ça arrive relativement régulièrement. À savoir que, par exemple, le dernier écroulement du granier, il était instrumenté. En fait, il y avait des gars parce que le granier, c'est en fait, c'est un gruyère. Il y a énormément de grottes dedans. Et en fait, on les avait foutu des barres en métal, si vous voulez, derrière la paroi, avec des compteurs en fait qui regardaient si, sait-on jamais, il y avait un petit jeu qui venait de se dégager. Et pourtant, on a rien vu venir. Même avec ce système ou autre, en fait, on a absolument pas tilté le moment où ça allait partir. Donc comme quoi, aujourd'hui, on a vraiment du mal à savoir quand les écroulements vont arriver. Et pourtant, ça va être mon ouverture. Ouais. Aujourd'hui, vous le savez, donc, nous sommes dans un moment de changement climatique majeur, et donc de réchauffement. Et donc, qui dit réchauffement, qui dit donc réchauffement des parois, et donc, comme je vous l'ai dit au départ, réchauffement du permafrost qui tient ces parois.
Ouais.
Ce qui fait qu'en montagne, depuis plusieurs années, on a énormément de phénomènes d'écroulement. De plus en plus, en fait. Ce qui pose beaucoup de questions, notamment sur la pratique de l'alpinisme, sur même l'accessibilité en montagne. Alors, ça peut aider, par exemple, les glaciers, ça peut ponctuellement les refroidir. C'est-à-dire que des blocs noirs, à peu près, qui tombent sur un glacier, en fait, ça réfléchit beaucoup moins la chaleur que le glacier. Et du coup, simplement, ça va absorber la chaleur sur les quelques premiers centimètres de la roche, ce qui va protéger en dessous, ça va rester frais, en fait, sous les blocs. Donc pour le glacier, pour lui, ça lui fait une petite zone de fraîcheur. Mais en soi, ça change pas grand-chose sur le fait que les glaciers disparaissent. Donc en règle générale, on va devoir s'habituer, en fait, à ce genre d'effondrement. Peut-être pas à des méga effondrements comme celui du granier.
Parce que là, du coup, est-ce que le reste du granier peut s'effondrer et détruire Chambéry, par exemple ?
Potentiellement, il pourrait repartir. Alors après, on essaierait de suivre. Mais enfin, encore une fois, on a du mal à savoir. Oui. Alors après, le granier, il a des phénomènes de réajustement, mais globalement, on estime qu'il ne devrait pas repartir aussi violemment, parce que la majorité de la matériaux mobilisables d'un coup comme ça est déjà parti.
Oui, et puis là c'était un peu la faute à pas de chance aussi, le fait qu'il y ait eu de la pluie en plus avant pour que tout dégouline dans la vallée.
C'est carrément totalement du hasard, du mauvais hasard, mais globalement c'est des choses qui peuvent arriver, notamment aujourd'hui dans les secteurs de haute montagne. C'est quelque chose qui pourrait totalement arriver, notamment dans le secteur du Mont Blanc, c'est totalement des choses qui pourraient arriver potentiellement. Donc voilà, comme quoi la montagne, c'est toujours un milieu qui évolue, c'est toujours un milieu duquel il faut se méfier, et c'est toujours un milieu qu'il faut suivre, notamment aujourd'hui parce qu'il est soumis à évolution.
D'accord.
Voilà.
Merci Jules, c'était vachement intéressant. Franchement, c'était vachement chouette. J'ai bien adoré ta petite histoire. Comme l'a dit Romain dans le chat, ça faisait vraiment petite histoire légende, quoi. C'est vraiment chouette. Grave. On a bu tes paroles. Enfin, moi, en tout cas, je les ai bues.
Ouais.
Grave. Super intéressant.
Merci.
Merci à toi encore une fois. Bon, écoutez, les gars, est-ce que vous voulez rebondir sur l'effondrement? Un peu comme Sticky, c'est assez
bon.
Les gens sont morts.
Ces gens sont morts. probablement pas nos grands-parents, parce que sinon, on serait
mais
plus.
Du coup, ça veut dire que techniquement, le vin de l'abîme pousse techniquement là où il y a des gens qui sont morts autrefois.
Oui, ça pousse techniquement sur les ruines de village.
Donc on boit, c'est presque comme si on buvait le sang des victimes.
Oui, oui.
C'est du rouge ou c'est du blanc?
C'est du blanc.
Dommage.
Dommage.
Ça a bien fertilisé le sol.
Ah, là, oui, c'est pour ça que ça fait du bon. Meilleur terreau du monde. Ben, j'espère, Jules, que ça s'effondrera pas pendant que tu seras à Chambéry, mais plutôt quand tu seras parti. voilà, je croise les doigts.
Oui.
Je me suis mis loin, je suis vers Aix-les-Bains, normalement.
Ah, mais t'es vers Aix. Oh, bah, c'est bon, ça va.
Je regarderai Chambéry s'effondrer, je filmerai pour
yes,
vous envoyer la vidéo.
Trop bien. On mettra ça sur TikTok.
Les bonus, les deux coups de rien.
Les bonus. Regardez, c'est ma ville.
Elle
s'écroule.
Cool.
Cool.
Trop lol.
Comme dans ma chronique.
Mets un pouce bleu, abonne-toi. Et ben écoutez les gars, ben merci à vous. Ça fait 1h30 d'enregistrement. C'était un enregistrement qui était très très chouette. Franchement, assez inattendu au fait parce que parce qu'à la base, et ben c'était pas du tout ces personnes-là à part Nico qui devait être présente. Donc merci à Mika et à Jules d'avoir été présents. Merci également à Romain et à Alexandre qui nous ont écoutés pratiquement pendant la totalité de l'émission. Merci à vous. C'est toujours rigolo d'avoir des auditeurs en fond. Et merci du coup à nos auditeurs qui nous écouteront d'ici quelques semaines, tout simplement. Je pense que je n'ai plus rien à ajouter, à part, encore une fois, des mille merci pour tout, voilà. Voilà, merci. Merci à vous.
Merci à tous.
Et passez une bonne soirée.
Bonne soirée, ou bonne journée.
Salut.
Ciao. Salut, ciao.
Je pense que c'est un sujet qui pourrait mériter d'autres chroniques, enfin peut-être pas de moi, mais genre si tu veux reprendre le concept ou quoi, tu sais, parler des fois de saison, de séries.
Ah bah oui, mais même n'importe qui, vous pouvez
ouais,
parler de tout ce que vous voulez, si d'autres dans de futures émissions ont envie de parler de, notamment je pense à Maxime qui est pas là mais qui nous écoutera peut-être, qui est probablement l'homme qui regarde le plus de séries dans cette émission, que ce soit des animations ou des séries de télé. Si, vu qu'il cherche des idées de chroniques, c'est pour ça que vous le voyez plus, chers auditeurs, c'est parce qu'il a tout donné. Mais peut-être que ça lui redonnera de l'envie de retravailler un petit peu avec nous en notre compagnie.